Alors, bonsoir et merci d'avoir bravé la pluie pour assister à cette rencontre intitulée « Création et contestation dans le théâtre russe, la critique au cœur de l'écriture ». En ouverture de la saison culturelle de la Bulac et pour coller à l'actualité, nous accueillons Marie-Christine Autant-Mathieu, qui est historienne et directeur de recherche au CNRS, et Stéphane Douret, qui est metteur en scène. Et cette rencontre a été conçue en partenariat avec le Théâtre 13 pour accompagner la programmation de la pièce « Le Dragon » d'Evgeny Schwartz, qui est jouée jusqu'au 28 octobre 2012, donc auprès de nos voisins du Théâtre 13. Alors je vais dans un premier temps vous présenter nos intervenants. Marie-Christine Autant-Mathieu, vous êtes donc historienne du théâtre, spécialiste du théâtre russe et soviétique, et vous travaillez sur les théories du jeu, sur leur circulation et les communautés artistiques du XXe siècle. Vous avez publié dernièrement « Le théâtre soviétique après Staline », un ouvrage sur Tchekhov, de Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma, également un ouvrage sur le théâtre de Bulgakov, et différents ouvrages collectifs sur notamment le théâtre d'art de Moscou. Nous accueillons également Stéphane Douret, qui est acteur et metteur en scène. Vous avez fondé la compagnie L'Omnibus en 1999, monté de nombreuses pièces, joué dans de nombreuses pièces. Et récemment, enfin en tout cas il y a quelques années, vous êtes déjà intéressé au théâtre russe en mettant en scène Le Mandat de Nikolai Erdmann, qui est un auteur russe méconnu et interdit aussi en son temps. Et là, vous avez choisi de revenir au Théâtre 13 avec une adaptation du Dragon. Vous êtes appuyé sur le texte de Simone Sens, qui est paru aux éditions de l'Avant-Scène. Pourquoi avez-vous choisi cette traduction, puisqu'il en existe une autre qui est également parue au Solitaire intempestif?
Oui, bonsoir à tous. Oui, il en existe même deux autres, je crois. Il y a une traduction de Markowitz, je crois, qui existe, et une autre qui date de la fin des années 80 de Benno Besson. Il s'avère que celle de Benno Besson, je pense, parce que je ne connais pas le texte original, mais je crois qu'elle a été très adaptée. Il a beaucoup coupé, changé de choses. Celle de Simone Sens-Michel était celle qui me convenait le plus, parce que je trouve qu'elle a un très bon équilibre entre la poésie, la politique, la comédie. Je trouve cette traduction très intéressante au niveau du langage. C'est celle qui me parlait le plus, voilà, tout simplement, pourquoi j'ai choisi celle-là.
D'accord. Alors, je suis peut-être rentrée un peu rapidement au cœur de cette thématique, puisqu'on doit parler de l'écriture aussi, du théâtre. Et j'ai oublié de vous demander pourquoi, finalement, comment vous aviez découvert Evgeny Schwartz, puisque c'est un auteur qui n'est pas très connu non plus en France. Et donc, comment vous en êtes arrivée à choisir d'adapter sa pièce au théâtre?
J'ai connu Evgeny Schwartz grâce à Nikolai Erdmann, tout simplement, parce que j'avais donc, comme vous le disiez, travaillé sur Le Mandat de 2003 à 2008, par là. On a travaillé sur Le Mandat, sur Paris et en tournée. Et quand j'ai travaillé sur cette pièce, je me suis un petit peu intéressé au théâtre soviétique et au théâtre de l'ère stalinienne, et c'est pour ça que je suis tombé sur cette pièce que j'ai trouvé vraiment magnifique, que j'ai trouvé totalement inattendue et surtout très complémentaire, je trouve, du mandat. C'est ça surtout qui m'a intéressé. J'avais pas pour projet de la monter impérativement, mais je me suis dit, si un jour on doit le faire, je voudrais vraiment que ce soit en complément du mandat, parce que le mandat est une pièce qui date de 1924, qui s'inscrit vraiment dans cette période-là, sur le début des années 20, alors que Le Dragon date de 1940, enfin ça a été écrit pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, donc 20 ans plus tard. Et je trouve que ces deux pièces correspondent de manière assez intéressante à deux grandes périodes de l'ère stalinienne, quoi. Donc c'est pour ça que Le Dragon m'a intéressé. On trouve des thèmes récurrent dans ces deux pièces, évidemment, sur le pouvoir, sur l'autorité avec un A majuscule, sur la dictature, sur la manière d'imposer une, une tyrannie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux pièces sont d'une forme totalement différente. Donc là, le dragon, ça me permettait d'aborder une forme beaucoup plus, encore plus débridée que le mandat, puisque le dragon, c'est un conte, donc ça permet quand même, aussi bien dans le jeu que visuellement, ça permet beaucoup de choses, quoi. Alors que le mandat est une pièce beaucoup plus, j'allais dire, d'actualité. C'était quelque chose qui s'inscrivait beaucoup plus dans une actualité, avec beaucoup de références à des personnages connus de l'époque, des fonctionnaires très connus, des hauts fonctionnaires connus, alors que le dragon est totalement hors d'une chronologie et même d'une géographie précise. Donc voilà, je trouvais que c'était deux pièces qui pouvaient être intéressantes. D'accord. En complément l'une de l'autre.
Et alors, avant de parler précisément de la pièce, Marie-Christine Automathieu, est-ce que vous pouvez nous resituer Evgeny Schwartz dans le répertoire du théâtre soviétique ?
Oui, j'étais intéressée par rapport à votre parcours. Vous avez monté Erdmann et ensuite vous avez monté Schwartz, ça me semble effectivement assez logique. Alors, peut-être quelques mots sur Evgeny Schwartz, qui est un auteur soviétique, c'est-à-dire qu'il a toute sa période d'activité a été durant la période soviétique et même stalinienne, puisqu'il est né en 98 et il est mort en 58. Donc toute sa période de créativité s'est déroulée malheureusement pendant une période difficile où la censure sévissait. Et il s'est arrêté d'écrire en 1944 et il a recommencé à écrire à la mort de Staline. Mais étant mort en 58, il n'a pas pu vraiment bénéficier de sa réhabilitation. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant dans le cas de Schwartz, mis à part le fait que c'est un auteur qui est entièrement soviétique, qui n'a pas eu une période d'ouverture avant la Révolution, c'est qu'il s'est situé, et c'est unique, en tout cas en Union soviétique, il s'est situé dans le genre du conte pour adultes soviétique. Donc ça, c'est effectivement très original. Et c'est ce qui lui a évidemment posé des problèmes, puisque je vais vous rappeler... faire un petit rappel de la réalité artistique soviétique. Vous savez peut-être qu'en 1934 a été instauré un dogme esthétique, le réalisme socialiste. En 1934, c'était justement au moment où Schwartz commençait à écrire, justement le moment où il commençait son compagnonnage avec le metteur en scène de Leningrad, où il habitait, qui s'appelle Akimov. Et de toutes les années 30 jusque dans les années 40, ce compagnonnage a duré. Et c'est grâce à Nikolaï Akimov que Schwartz a pu essayer d'être monté. Bon, pas toujours, les tentatives n'ont pas toujours abouti, mais en tout cas, ce compagnonnage, est lié d'ailleurs à une amitié, a été vraiment très important pour Schwartz. Et donc, je rappelle donc qu'en 1934, a été instaurée la norme, le dogme, imposé dans tous les arts, le réalisme socialiste, dont je vais vous lire la définition pour que vous voyez un petit peu, par rapport au conte, quelles difficultés peuvent se poser. Donc, un petit bout de la définition du réalisme socialiste. Le réalisme socialiste exige de l'artiste une représentation véridique, historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire. D'autre part, la véracité et le caractère historiquement concret de la représentation du réel doivent se combiner à la tâche de la transformation et de l'éducation idéologique des travailleurs dans l'esprit du socialisme. Donc, Schwartz, arrivant avec son conte pour adultes, se heurtait évidemment à un problème de taille, puisque dans un conte, vous savez, la réalité est inventée, est invraisemblable, et qu'il n'est pas possible de coller au réalisme. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que lorsque Schwartz a été interdit, seule la pièce L'ombre a pu être jouée une fois, et puis la guerre est arrivée, et le texte n'a pas été repris, n'a pas été remis en scène. En ce qui concerne le dragon, effectivement, il avait commencé la pièce avant la guerre, et puis lorsque la pièce a été jouée en 1944, un haut dignitaire, personne ne sait d'ailleurs qui c'était réellement, a trouvé qu'il y avait quand même des allusions, certes, à Hitler, mais il y en avait quand même beaucoup à Staline, donc la pièce a été interdite. Voilà, donc au moment où... Bon, Schwartz s'est arrêté d'écrire pendant jusqu'au dégel. Et au moment où on a commencé où Akimov s'est vraiment a pris à cœur de réhabiliter cet ami et cet auteur extrêmement doué, il a fallu donc le réhabiliter, mais avec beaucoup de précautions. Et c'est très intéressant de voir comment les critiques bienveillants ont essayé de réhabiliter Schwartz. Alors, je vous lis, par exemple, un texte de 1157 d'un certain critique qui s'appelle Evgeny Mine et qui essaie donc de, comment dire, de faire coïncider le conte pour adultes de Schwarz avec le réalisme socialiste. Et c'est compliqué. Alors, voici ce qu'écrit ce critique. « Le conte est l'une des formes de l'art réaliste. Il repose sur la réalité de la vie et sur des héros typiques. Comme dans la réalité, le bien et le mal s'affrontent, le héros est jugé d'après ses actes et il réussit grâce à ses qualités propres et non grâce à la magie. » Voilà. Donc c'est effectivement très compliqué. Un autre argument qui a été avancé pour pouvoir réhabiliter Schwarz, qui posait quand même un problème de taille, même dans une période de relative libéralisation, c'était de rappeler un certain nombre de spectacles qui reposaient sur des contes et qui étaient restés en odeur de sainteté. Donc, même si les rapprochements étaient assez aberrants, par exemple, on a dit dans les années 50 que le dragon ou l'ombre, c'était du merveilleux et que ça pouvait se comparer à un spectacle phare des années 20, La princesse Turandot, qui avait été effectivement mise en scène d'après un conte de Gozzi et qui avait été un des grands moments de l'avant-garde soviétique, puisque ça a été un spectacle monté par un élève de Stanislavski et qui avait été une espèce de sommet de la théâtralité. Voilà. Alors, c'est vrai que ça ne pouvait pas se comparer. Les contes de Schwarz, qui étaient des contes qui reposaient sur un projet moral et un projet social, ça n'avait rien à voir avec le conte de Gozzi, qui était un petit conte gentil où une princesse capricieuse renvoyait ses prétendants parce qu'elle n'avait pas envie de se marier avec eux. C'était les moyens qu'avaient trouvé les critiques à l'époque pour essayer de le faire rentrer dans le panthéon de l'art réaliste socialiste, et c'était compliqué.
Et alors, avant qu'on parle plus précisément de la pièce, je me posais la question sur des procédures sur lesquelles reposait la censure à cette époque-là, c'est-à-dire comment les ministères, ou en tout cas les fonctionnaires, décidaient d'interdire une pièce. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un dépôt des pièces? Est-ce que... il y avait une commission qui étudiait l'ensemble des pièces qui pouvaient être jouées. Comment ça se passait exactement?
La censure était à au moins trois niveaux, si ce n'est plus. C'est-à-dire qu'il y avait la censure déjà du texte. Donc, le texte passait ou ne passait pas, cette première étape. Ensuite, le texte était répété. Donc, il y avait encore une deuxième étape. C'est-à-dire qu'il y avait des censeurs qui étaient dans la salle et qui voyaient comment les répétitions se déroulaient. Parce que, bon, vous savez bien, au théâtre, on peut jouer un texte en faisant entendre des choses qui n'y sont pas. C'est d'ailleurs tout le travail qu'avait fait toute la ruse qu'avait utilisé Lubimov à la Taganka, qui, à partir de textes archi-revus, archi-vérifiés, arrivait encore à faire, par la gestuelle, par des clins d'œil, par tout un tas de choses, imperceptibles, etc., à faire passer des messages qui n'étaient pas très, très bien vus. Et donc, les censeurs étaient dans la salle et surveillaient ce qui se passait. Donc, éventuellement, la plupart du temps, disons 90% des fois, ils demandaient des aménagements du texte. Donc, le texte était retravaillé, repassé devant les commissions, etc. Et quand, enfin, toutes ces corrections imposées à l'auteur, imposées aussi par le metteur en scène, qui ne voulait pas avoir de problème avec la censure, parce que si un texte est censuré sur théâtre, c'est sur surveillance. Donc, ce texte vraiment bien validé, enfin... était joué. Et là, il y avait des avant-premières où le texte était encore vérifié par les censeurs. Et il y a plusieurs termes en russe, évidemment, quand la censure est aussi présente, il y a plusieurs termes pour désigner ces différentes étapes de la censure. Et donc le texte, il arrivait très souvent que le texte, pourtant vérifié, aménagé, etc., ne passe pas cette étape-là. Je pense à Lubimov, qui était, on le sait parce que les textes ont été publiés depuis, et on sait comment les choses se passaient, comment le metteur en scène devait aller négocier carrément auprès du ministre un bout de phrase ou même une virgule. Enfin, quelquefois le spectacle, donc comme c'est le cas pour Schwarz, il a été joué pas le dragon mais l'ombre, C'est joué une fois, donc apparemment tout va bien. Hein. Et pourtant, il y a encore la censure possible, c'est-à-dire que dans la salle se trouve un haut responsable qui trouve que finalement c'est scandaleux qu'on ait laissé, que la censure ait laissé passer cette pièce, et il interdit la pièce. Hein. Voilà, donc à tout moment, en fait, le couperet peut tomber. Bon, on peut donner plein d'exemples, enfin, pour parler de Herdman.
Sur Herdman, c'est assez drôle ce qui s'est passé, en tout cas pour le mandat, parce que la pièce date de 1924. Elle a été jouée, elle a été mise en scène par Meyerhold, qui était un des plus grands metteurs en scène de cette époque. Et elle a eu énormément de succès. Elle a passé la censure, tout allait bien, parce que, justement, les fameux censeurs de différents niveaux avaient cru y voir une critique féroce de l'ancien régime, des anciens bourgeois, des tsaristes. Et donc la pièce a été jouée sans aucun problème, elle a eu énormément de succès, elle a même été jouée jusqu'en Allemagne à cette époque-là. Et pour Herdman, ce qui s'est passé, c'est que, vous allez me dire si l'anecdote est exacte, il y a une soirée qui avait été organisée au Kremlin, mais quelques années après, dans lequel avait été invité un des comédiens qui travaillait avec Nicolas Herdman. Et ce comédien devait être un petit peu aviné, éméché un petit peu à cette soirée. Et il a déclamé un poème qu'avait écrit Nicolas Herdman, qui se terminait par la phrase « Seul le camarade Staline au Kremlin ne dort jamais ». Et de ce jour-là, Staline a décidé d'interdire tout ce qu'avait pu éditer Herdman, c'est-à-dire le mandat qui avait été joué pourtant avec beaucoup de succès et qu'il avait lui-même encensé en disant « c'est formidable, c'est une critique de l'ancien régime ». Or, le mandat n'est pas du tout une critique de l'ancien régime, c'est une critique autant, si ce n'est plus, du communisme stalinien que de l'ancien régime. Herdman avait réussi à passer cette censure et elle l'a rattrapé de manière totalement, j'allais dire, par une maladresse des années plus tard, sauf que lui, il a payé du goulag parce qu'il a passé, je crois, 3 ans. On n'avait pas le droit de dire que Staline ne dormait jamais, alors qu'à la limite, il aurait pu le prendre plutôt bien. Mais il avait très bien compris ce que ça signifiait. Donc, effectivement, la censure prenait plusieurs biais.
Oui, effectivement. Et alors, si on en revient maintenant au dragon, de quoi parle cette pièce, finalement ? Quel est le synopsis ?
Alors, c'est une histoire très, très simple. Ça se passe dans un village... on présume que c'est un village d'Europe de l'Est. En tout. Bon, on ne sait pas, hein, c'est pas précisé, mais il y a quelques indices qui laissent penser ça. En tout cas, c'est un village qui est totalement coupé du reste du monde, où les gens... vivent entre eux, et puis sur ce village, depuis 400 ans, règne un dragon qui a des pouvoirs magiques et qui protège ce village, mais qui en même temps lui impose un tribut tous les ans, donc une jeune fille déjà, ça c'est un petit peu normal, et puis la nourriture, enfin voilà, c'est le village qui fait vivre ce dragon. Et puis un jour dans ce village débarque un jeune chevalier, enfin lui se prétend chevalier, on ne sait pas trop, il s'appelle Lancelot et il apprend l'existence de dragon et évidemment il décide de débarrasser les habitants de cette engeance. Contre toute attente, la plupart des habitants lui disent « mais non, mais nous ça nous va très bien, on n'a rien demandé, ne faites pas ça ». Il y en a quelques-uns qui décident de l'aider à combattre le dragon et voilà, je ne vous dis pas la suite. C'est une histoire très simple, c'est vraiment un conte.
Et donc, c'est une histoire qui contient de nombreuses références, à la fois bibliques, mais aussi des références à des contes. Finalement, le recours à ces références symboliques, c'est un outil de la critique, en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on va retrouver souvent chez Schwartz.
C'est-à-dire que Schwartz n'écrit que des contes, en fait. Il n'écrit que des contes. Il a écrit des scénarios de cinéma, il a écrit un peu de poésie, des récits, mais il n'écrit que des contes. Contes pour enfants, bien sûr, hein, c'est ça qui l'a fait vivre dans les années difficiles, et contes pour adultes. Donc, en fait, son univers ne sont que des personnages fantastiques. Et c'est là que je pense qu'il a été très malin, parce que c'est un moyen, justement, d'échapper à la norme, de se mettre dans ce sur ce petit territoire qu'est le conte. Ça permet d'échapper au réalisme, ça permet d'échapper à la psychologie des personnages. Voilà. Et c'est assez astucieux aussi, parce que dans les années 30, cette période où le théâtre d'agitation est encore vivant, on pourrait dire que finalement, d'une certaine façon, les personnages du conte sont des personnages types, des archétypes, un petit peu comme les personnages de propagande, finalement. Hein. La différence entre un chevalier, un dragon, une princesse, ou bien l'ouvrier, le bourgeois, le capitalisme. Mais l'intérêt, justement, et c'est là qu'il est très malin, c'est qu'au fond, il écrit des pièces très simples, mais pas à des fins de propagande, il les écrit à des fins de prise de conscience morale. Et le conte est bien fait pour ça. Le conte, il est là pour rendre les choses très simples et faire réfléchir à la fin à une morale. Et justement, là où, c'est pour ça qu'il a déplu, c'est qu'il a cherché, dans une période où, dans sauvagement absolu de la société, à un moment où il y avait des délateurs, où il y avait des corruptions, où il y avait la violence, la police politique, etc., lui, il suivait son petit bonhomme de chemin et il disait, il y a le bien et le mal, la morale humaniste, la morale universelle, etc. Justement, la morale universelle est exactement ce que le régime soviétique ne voulait pas, puisqu'on formait un homme nouveau et il fallait, avec cet homme nouveau, tout refaire, y compris une nouvelle morale. Or, Schwarz disait non, moi je m'en tiens à la tradition, je m'en tiens à la morale humaniste. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça c'est comme ça qu'on l'a réhabilité au moment du dégel. Quand à la mort de Staline, toute une génération s'est interrogée sur ce qu'étaient les crimes de Staline, la jeune génération, justement celle qui a remonté Schwarz à Moscou et ailleurs, a montré justement qu'il fallait revenir à cette morale universelle, qu'il n'était pas question de faire une morale socialiste ou communiste, ça n'avait pas de sens, et que si tous ces malheurs étaient arrivés, c'est en partie parce que l'homme avait oublié ce qu'était le bien et le mal traditionnellement. Voilà. Et c'est pour ça que la réhabilitation de Schwarz a été... Schwarz était parmi les auteurs les plus montés, je dirais presque plus que, justement, que Erdmann, qui avait effectivement subi la censure et qui avait été relégué, etc. Mais Erdmann, c'était des comédies satiriques, comme vous l'avez dit. Et au fond...
Mais il n'en écrit que deux, surtout. Alors, on avait vite fait le tour. C'était voilà. Difficile.
Ouais. Non, mais il y avait aussi le fait, comme vous l'avez dit, que Erdmann attaquait les réalités d'une période donnée, d'une petite bourgeoisie de la NEP, d'une période donnée. Il était moins ouvert peut-être que... son œuvre était peut-être moins ouverte, puisqu'elle était quand même liée aux années 20 et aux années 30.
Oui, elle était très dans l'actualité.
Voilà. Oui. Que l'était l'œuvre de Schwarz, qui, c'est pour ça qu'elle nous parle encore aujourd'hui. C'est que c'est vraiment une œuvre qui, comme vous l'avez dit, elle n'est pas localisée.
Oui.
Voilà. Et donc, du coup, ça peut effectivement parler, quel que soit...
L'un et l'autre, c'est aussi peut-être pour ça que ces deux pièces m'ont intéressé. Chacun à leur manière, justement, l'un dans quelque chose qui était lié à l'actualité des années 20 et l'autre dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'universel. Je pense, leur cheval de bataille, c'était avant tout la libre pensée. C'est ça, je pense, surtout. C'est-à-dire qu'ils rappelaient aux gens que... Ils essayaient de rappeler au public que c'était à eux de penser par eux-mêmes et qu'ils avaient le droit de penser par eux-mêmes et d'agir par eux-mêmes et justement de ne pas rentrer dans un moule idéologique, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que l'un comme l'autre ne prennent pas parti, ou en tout cas ils le font de manière très très floue, mais c'est vrai que c'est avant tout des promoteurs de la libre pensée et de la liberté, voilà. Et ça, c'est intéressant.
Et cette liberté, on la retrouve aussi dans le style, dans l'écriture de Schwarz, puisqu'il emploie un certain nombre de structures métaphoriques. Donc, vous parlez de calembours, de sonorités particulières. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un peu ? Est-ce que vous comparez aussi parfois les textes dans leur... Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous lisez le russe, j'imagine oui. Que oui. Donc, du coup, est-ce que vous les avez étudiés dans les deux langues enfin...
Alors, moi, je suis très contente que vous ayez pris la traduction de Simone Saint-Michel, qui, effectivement, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé le texte. C'est-à-dire que Benoît Besson, vous avez raison, il a adapté. Hein, ouais. Donc, lui, il pense, il le dit, et je pense qu'il a raison, que ce serait un peu dommage de faire de Schwarz juste un critique du totalitarisme et du totalitarisme stalinien, que c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que Benoît Besson, c'est lui qui a fait découvrir Schwarz d'abord dans les années 60, hein, c'est un peu le découvrir à l'Occident de Schwarz, pour des raisons qui sont peut-être un peu longues, sur lesquelles on pourrait revenir, parce que Benoît Besson, c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé à Brecht, et Brecht s'est intéressé au totalitarisme. Et on pourrait faire des comparaisons entre Arthur Houy, qui a été écrit en 1941, et cette pièce-là, qui, bon, voilà. Mais bon, peu importe la filiation. En tout cas, Benoît Besson a effectivement adapté ce texte pour le rendre encore plus, que vous disiez, encore plus universel. Mmh. Déjà qu'un conte, ça n'est pas lié à un territoire, mais Benoît Besson l'a effectivement un peu adapté, l'a un peu coupé. Or, Simone Sainz est une traductrice qui aime beaucoup, beaucoup la langue et beaucoup les jeux de langue. Ça a été pour elle un défi. De fait, alors c'est très difficile à traduire, hein, vous pouvez imaginer, parce que en fait, pour revenir à votre question sur la langue, en fait Schwartz est quelqu'un qui a fréquenté à ses débuts, qui a fréquenté, je ne sais pas si vous savez ce que sont les Oberiutes, c'est-à-dire les néo-futuristes, ces gens un peu farfelus que sont Harms, Wieliński et compagnie. Donc c'est des gens qui travaillaient effectivement sur la langue et qui a inventé une nouvelle langue, on appelle le Zaoum, le langage transmental. Donc, ils s'amusaient beaucoup avec les mots. Ces gens-là étaient liés, bon, je veux dire, un peu grossièrement, étaient liés au mouvement formaliste. Et Schwartz les a fréquentés. Alors, dans son journal, bon, il n'a pas adhéré, si vous voulez, ni au mouvement formalisme, ni aux Oberiutes. Mais il les fréquentait, il les connaissait. Et il s'est beaucoup intéressé justement à ses recherches de langage. Et donc, son écriture est très difficile à traduire parce que ce ne sont que des jeux de langue, en fait. L'originalité de ce conte, elle n'est évidemment pas dans le sujet. Tout le monde sait que ça va bien se finir et que le chevalier va vaincre le dragon. Bon, voilà, ce n'est pas très palpitant. Mais l'intérêt, justement, c'est que d'individualiser des personnages à travers le langage. Et un langage extrêmement drôle, un langage complètement inventif. Donc il a fait, et c'était les années 20 et les années 30, c'était vraiment le moment où on pouvait faire ça encore, il a fait des collages-montages de citations, de styles, de genres. Il a créé des gags, je me souviens, je crois que c'est dans Le Roi Nu, il y a des gags qui sont vraiment dignes du cinéma muet. Il y a le ministre des Tendres Sentiments qui essaie de faire jouer un orchestre, et dans l'orchestre, il y a le contrebassiste qui soue, donc il ne peut pas jouer. Donc, que fait le ministre des Tendres Sentiments pour que quand même l'orchestre soit élu, enfin, puisse réaliser la symphonie? Il va demander à tous les autres musiciens, quand ils ont les mains libres, de jouer de la contrebasse. Voilà. Donc, vous imaginez le gag. Enfin, voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Alors, il y a aussi un travail extraordinaire sur les chansons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ritournelles, de refrains, et donc un travail d'allitération, de travail sur les sons, les répétitions, etc. Donc, tout ça est extrêmement... inventif, et pour les comédiens, c'est extraordinaire, parce que voilà, c'est un régal de dire cette langue qui est la poésie pure, au fond. Et voilà, et c'était aussi pour lui une manière, comment dire, de s'échapper dans le langage. Voilà, et la liberté, comme vous disiez, la liberté, elle est dans la réflexion morale et aussi dans cette langue qui, finalement, n'est pas plus absurde que la langue convenue. Enfin, c'est ça qu'il essaie de montrer, en fait. C'est qu'en montrant des personnages qui sont d'affreux bureaucrates ou d'affreux méchants, enfin, qui donc ont un style complètement aplati, plein de platitudes, des banalités, et qui sortent ça dès qu'ils ouvrent la bouche, au fond, il fait déraper ce langage de platitude, il les fait déraper dans une espèce de néolangue qui est complètement folle, mais pas plus folle, au fond, pas plus vide de sens que les platitudes que débitent les serviteurs et les gens serviles. Donc, voilà, c'est là l'espèce de liberté, en fait.
D'accord. Et alors, pour adapter le texte, Stéphane Douret, vous avez travaillé avec Marina Abelskaya. Comment s'est passée cette collaboration et pourquoi avez-vous travaillé avec cette...
C'est-à-dire que il y a, comme toujours dans une traduction, il y a toujours des endroits où on est plus ou moins satisfait d'une formule, d'un mot. Et moi, je voulais pas retravailler éventuellement un mot, une réplique de cette traduction sans passer par le texte original. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse revenir au texte original, qui parle le russe et qui puisse le lire. Donc, c'est tout simplement pour ça, au départ, que j'avais demandé à ce qu'elle travaille avec moi quand il y avait des formules, une grammaire que je ne trouvais pas, où je pensais qu'on pouvait améliorer. Je voulais vraiment revenir au texte original. Et puis, c'était aussi extrêmement utile pour ce que vous évoquiez tout à l'heure, tous les... j'allais dire tous les doubles fonds des tiroirs, c'est-à-dire toutes les allusions, les références, les clins d'œil qui moi m'auraient échappé parce que vraiment issus de la culture russe et de la culture russe de cette époque. Donc c'est vrai que grâce à elle, j'ai aussi découvert des choses, ne serait-ce que sur les noms des personnages, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Charlemagne dans la pièce. Et voilà, on en a beaucoup discuté, et il s'avère que Charlemagne, d'après elle, est une référence à, effectivement, à ce roi qui a été le premier à essayer, même si c'était par la force, d'unir une partie de l'Europe, enfin en tout cas de tenter une unification de territoires très éclatés qui se faisaient la guerre en permanence. Et l'archiviste du village, qui est celui qui détient le savoir, la culture et la sagesse, s'appelle Charlemagne. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans le texte. Vous le disiez aussi, il y a beaucoup de références à la Bible, beaucoup de références bibliques, alors que Schwarz n'était pas, je crois, spécialement un orthodoxe convaincu ni militant. Mais je crois que la religion est quand même très présente dans la culture russe et il se sert dans cette pièce. Il y a pas mal de références à la Bible, références bibliques et en particulier à l'Apocalypse de Saint Jean, évidemment avec le dragon entre autres. Voilà, donc c'était pour un peu décortiquer toutes ces références, que c'était utile d'avoir quelqu'un qui non seulement parle russe mais soit elle-même russe, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans ce pays.
Et avant de pouvoir en sortir. C'est en sa présence ou en tout cas par son intermédiaire que vous avez rencontré les ayants droit d'Evgeny Schwarz?
Non, on ne les a pas rencontrés. Elle a des contacts avec eux, en particulier avec une de ses petites filles, je crois, qui habite à Saint-Pétersbourg et qui détiendrait, mais elle ne veut pas les lâcher, des extraits totalement inédits du dragon, c'est-à-dire la dernière version qu'il a écrite et dans lequel il y a des passages manquants. Elle nous a parlé en particulier d'une scène dans une taverne dans le village avec les amis de la jeune première, mais on a essayé de les avoir et elle ne veut pas trop s'en séparer parce qu'elle voudrait d'abord qu'ils soient édités. Ouais. Et c'est très difficile apparemment en Russie de faire ça, voilà. Mais il s'avère que le dragon tel qu'on le connaît là n'est apparemment pas encore complet par rapport à la version que Schwarz avait écrit au final. Mais c'est pareil pour Erdmann, hein. Les textes ont été dépecés, ils ont été dispatchés dans diverses archives, on en a retrouvé des bouts aux quatre coins de la Russie. Donc c'est des textes qui malheureusement ne sont pas, malheureusement sûrement pas les versions que les auteurs à l'époque voulaient voir monter.
Oui, je vais peut-être en profiter. Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Ça, dans des pays de forte censure, on a toujours du mal à reconstituer les originaux. Et enfin, c'est vraiment un travail assez passionnant, un travail de détective, hein, de la part des philologues, de rééditer les textes. Bon, il y a eu, au moment de la perestroïka, toute une série de rééditions, des textes de Bulgakov en particulier. On a trouvé pour le Molière de Bulgakov, je ne sais plus, une quarantaine de variantes. Enfin, c'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Alors, le problème, c'est que souvent, les auteurs brûlent. Ça, c'est aussi la tradition de Gogol. Hein. Ils disent qu'ils brûlent, peut-être qu'ils ne brûlent pas, mais enfin, ils suppriment, déchirent. Enfin, certaines variantes qui peuvent les compromettre, parce qu'il y a aussi des perquisitions, il y a aussi... récemment, je travaillais sur un texte absolument incroyable d'un auteur prolétarien des années 30, qui s'appelle Afinogenov. Et qui a connu son heure de gloire. Staline avait évidemment beaucoup aimé ses pièces, et puis tout d'un coup, il était disgracié. Et il écrit un journal, et dans ce journal, effectivement, il fait état de sa crainte de la perquisition. Donc, à tel point, et ça, la schizophrénie, ça apparaît aussi bien dans la pièce de Schwarz. Hein. Je ne sais plus, je crois que c'est le fils du bourgmestre.
C'est le bourgmestre. Hein, ou qui est schizophrène.
Il est complètement schizophrène. Mmh. Donc il a deux voix, une voix haut aiguë, une voix basse. Donc cette schizophrénie, elle est complètement liée à la société soviétique. On trouve aussi cette schizophrénie dans Le Maître et Marguerite. Hein, un chapitre du Maître et Marguerite s'appelle La schizophrénie, comme il a été dit. Donc voilà. Et voilà, je ne sais plus ce que j'ai perdu le fil. je suis partie sur Bulgakov.
Oui, non, et on parlait de...
Voilà. Ah voilà, de Afinogenov, oui, voilà. Afinogenov, qui, comme Schwarz, voilà, je pensais à ça parce que, comme Schwarz, dans ses carnets, qui ont été aussi publiés à la Perestroïka, il parle d'eux à la troisième personne. C'est vraiment un dédoublement de la personnalité. Et donc, Afinogenov se confie à ce journal et il écrit et il prévoit la perquisition, donc la confiscation du journal. Et dans son journal, il s'adresse à son inspecteur en lui disant « Mais peut-être allez-vous penser que ce que j'écris est écrit pour vous ?» etc. Donc, c'est complètement fou. C'est des gens qui ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus où est leur personnalité, où est leur double et quel est éventuellement leur triple qui va devoir répondre aux accusations et mentir, etc. Donc c'est des choses assez terrifiantes. Et pour revenir à ce que vous disiez sur les références à la Bible, je pense que c'est quelque chose qui... Ce n'est pas forcément lié... Je ne connais pas du tout la religion de Schwartz, mais je pense que ce n'est pas forcément lié à une croyance profonde orthodoxe ou chrétienne, parce que en fait la révolution est arrivée avec les images, les métaphores de l'apocalypse, du déluge, enfin vous savez Mayakovsky, etc., Mester Bouffe, et c'est cette métaphore de l'apocalypse, elle est très très fréquente, surtout chez les auteurs qui sont pas vraiment du côté de la révolution, parce que pour eux effectivement c'est une apocalypse et ils sont plutôt dans le camp de ceux qui sont balayés. Et je pensais, en vous écoutant, on trouve cette image de l'Apocalypse aussi chez Bulgakov, notamment dans la pièce Adam et Ève, où c'est vraiment la métaphore de la fin du monde, etc. Et j'ai pensé aussi, en relisant Le Dragon, j'ai pensé aussi que finalement, ce Lancelot, que ce chevalier qui déboulait comme ça dans une dictature... et qui finalement pouvait les amener à réfléchir sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ça m'a fait penser aussi au Maître et Marguerite, où Bulgakov finalement utilise le même procédé, puisqu'il fait arriver sur Terre Satan, le fameux Voland. Et que fait donc ce personnage merveilleux, magique, tout ce que vous voudrez ? Eh bien, il confronte les moscovites des années 30 à leur vérité. Et finalement, il démontre, un peu comme Schwartz avec son humanisme éternel, il démontre que les moscovites dans les années 30, ils n'ont pas tellement changé, ils sont aussi menteurs, aussi profiteurs, aussi corrompus que l'étaient finalement les personnages sous Ponce Pilate. Voilà. Donc il y a une espèce de continuité dans le vice et les malheurs de l'humanité qui est montrée par ce personnage merveilleux. Alors Satan dans un cas, et finalement l'ensemble.
En l'occurrence, Schwartz effectivement devait... Je ne sais pas s'il était croyant ou pas, mais Lancelot dans la pièce a vraiment... c'est un personnage assez christique, hein, c'est, quand même. Sauf que dans la pièce, sans trop en dévoiler, il échoue. Il échoue même lamentablement. Donc, effectivement, je ne suis pas sûr que Schwartz était spécialement croyant. Enfin, voilà, c'est plus compliqué que cet homme providentiel un peu christique qui vient et qui sauverait les gens. Effectivement.
Et puis, en fait, Lancelot est aussi... c'est tout l'art du conte de Schwartz, c'est-à-dire qu'il est aussi... Schwartz le descend de son piédestal, quand même. Parce qu'en
permanence.
C'est un héros professionnel. Hein, c'est un héros professionnel. Je crois que c'est dit dans la pièce.
Oui, oui.
Hein. Donc, bon...
C'est surtout que c'est un anti-héros plus qu'un héros.
Voilà.
C'est ça, surtout.
C'est surtout ça.
Il est d'une maladresse un peu confondante, quand même. Et il est tellement zélé que ça en devient ridicule, quoi. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec vous.
Et au fond, et finalement, à la fin de la pièce, il descend complètement de son piédestal parce qu'au lieu d'épouser, comme c'est le cas dans les contes, la princesse ou la fille du roi, en fait, il épouse la fille d'un archiviste.
Donc, oui. On ne sait même pas s'il l'épouse.
mais en tout cas, il renonce en fait à son acte de chevaleresque. Oui, oui. Et finalement, il va s'embourgeoiser. si on peut dire, il va mener une vie de popote, voilà. Donc
c'est
un héros, en fait, oui.
Et alors Lancelot est le personnage principal, naturellement, mais il y en a beaucoup sur scène dans cette pièce que vous pourrez voir au Théâtre 13 jusqu'au 28. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différents personnages, puisque chacun d'entre eux semble incarner finalement tous les attributs d'une société soumise, Schwartz décrit bien.
Dans Le Dragon, il y a deux catégories de personnages. Il y a ceux qu'on pourrait appeler les personnages principaux, donc évidemment dont fait partie Lancelot, le bourgmestre, Elsa, la jeune fille que Lancelot veut sauver, Charlemagne, le père d'Elsa, enfin voilà. Et il y a toute une moitié de la distribution qui est ce qu'on pourrait appeler des personnages secondaires, bien que ce soit un peu péjoratif de dire secondaire, et je ne le dis pas de manière du tout péjorative, mais ce sont tous les personnages qui habitent ce village et qui sont confrontés justement à la dictature et au sauvetage par Lancelot. Et c'est vrai que moi j'en ai coupé quelques-uns, ou j'ai rassemblé quelques personnages de manière à les faire jouer par un seul comédien, mais ils représentent tous des archétypes, ou en tout cas des types de personnages, et surtout des types de réactions à l'oppression. C'est-à-dire que dans ce village, il y a un jardinier qui est extrêmement, ce qu'on appellerait aujourd'hui un collaborateur épouvantable, qui est sans doute prêt à dénoncer ses voisins et qui profite de la situation. Il y a trois jeunes filles qui, elles, sont totalement incultes et totalement hors de la politique, donc qui se laissent porter et qui correspondent un peu à ces gens qui, finalement, ne veulent pas trop en savoir et puis sont toujours d'accord avec le dernier qui a parlé. Il y a, au contraire, des résistants. Il y a un luthier qui est vraiment, lui, pour le coup, qui représente un peu la dissidence. Il représente, tous ces personnages représentent des manières différentes de résister ou de collaborer, ou de, en tout cas des manières différentes d'aborder l'oppression et la tyrannie. Et moi j'ai voulu garder, c'est pour ça que la distribution est assez importante, j'ai voulu garder tous ces différents personnages. Il y a un jeune garçon aussi, et ça je trouve ça intéressant parce qu'on le retrouve aussi chez Herman, ce personnage, aussi sous les traits d'un enfant, qui est celui qui dit systématiquement la vérité. Et que soit on fait taire, soit on n'écoute pas, mais en tout cas, il y a aussi cette image de la pureté chez ces auteurs, de l'innocence, et de ceux qui voient ce qui se passe, qui le disent, et qu'on fait taire. Et c'est assez touchant, et c'est assez, c'est un personnage qui est comme les autres, qui est finalement très peu présent, mais qui représente beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas voulu couper ces personnages, parce qu'ils sont assez intéressants, je pense.
Et il y a aussi un personnage assez important, c'est le chat. Alors, vous avez fait un choix assez fort, puisque finalement, le chat dans la pièce...
Je ne veux pas trop en dire, j'espère que les gens viendront la voir. Mais oui, il y a un chat qui parle dans la pièce. Ça fait partie de ces quelques clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles qu'il y a dans Le Dragon. C'est une pièce... Enfin, il y a beaucoup de clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Il y a un chapelier, il y a un chat qui parle, il y a deux personnages qui parlent en même temps, enfin, comme les jumeaux dans Alice. Je crois qu'il s'est fait plaisir, ça devait être, je pense qu'il aimait beaucoup les Lewis Carroll et il s'est un peu servi de ça. Et il y a effectivement un chat qui parle, qui est aussi un personnage qui est... je ne veux pas trop en dire, c'est difficile d'en parler, mais c'est un très beau personnage dans la pièce, parce que c'est lui qui incite Lancelot à sauver les gens. C'est un peu lui qui fédère, entre guillemets, la rébellion contre le dragon. Et ça devient une espèce de Sancho Panza pour un Lancelot qui est très, très don quichotien. Donc c'est un très beau personnage. Après, la manière dont je l'ai traité, je ne veux pas trop en dire. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle, mais en tout cas, j'ai pas voulu. Voilà, c'est difficile dans une pièce, surtout une pièce pour adultes, d'avoir des animaux qui parlent, vous en doutez. Moi, je ne voulais pas d'un comédien qui soit en fourrure... et qui se promène à quatre pattes en faisant miaou. Donc j'ai essayé de contourner l'obstacle et de traiter ce personnage de manière un petit peu différente. J'hésite à en parler.
Voilà, ça va intriguer le public. Mais si on parle maintenant de la mise en scène, il y a eu aussi un certain nombre de choix audacieux en tout cas, qu'on ne voit pas très souvent au théâtre, dans les décors. Puis vous avez traduit aussi la notion la dépersonnalisation en fait des habitants dans les costumes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
C'est un conte, et moi si j'ai travaillé sur cette pièce, c'est aussi parce que l'univers du conte et l'univers un peu onirique ou fantasmagorique était intéressant. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le visuel. Et sur le son aussi d'ailleurs, mais beaucoup sur le visuel. Pour répondre à ce dont vous parlez, c'est vrai qu'on a travaillé sur des costumes qui sont qui sont déjà faits en tissu d'ameublement, et c'est vrai, et qui sont, comment dire, qui sont des costumes qui, dans la forme, pourraient être réalistes ou en tout cas pourraient, à la limite, avoir été portés. J'ai pas voulu aller vers des costumes trop extravagants au niveau des formes, mais du coup, l'utilisation de tissus un petit peu de tissus d'ameublement, et en particulier, on a comme ça, vous saurez tout. On a beaucoup travaillé sur la toile de Jouy, si vous voyez ce que c'est. C'est vrai que du coup, ça donne des choses un petit peu étonnantes, puisqu'on a utilisé la toile de Jouy aussi dans le décor. Donc, c'est vrai que les personnages deviennent soit éléments du décor, soit en tout cas, voilà, on sent que ce village vit vraiment refermé et qu'il y a une mode et que tout est un petit peu à la même mode, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment.
Oui, et puis aussi, on sent, enfin, si vous allez voir la pièce, il y a quand même cette idée que les personnages se fondent dans le décor, en fait, disparaissent par leurs vêtements, en fait.
C'est à la fois. Alors ça, après, on peut l'interpréter de deux manières. Il y a à la fois l'envie de passer inaperçu et de disparaître, et il y a aussi le fait que, dans les sociétés totalitaires, la réification des gens, de l'humain, est chose courante. C'est-à-dire que les gens sont là où on les met, et effectivement, la vie humaine n'a pas plus d'importance que celle d'un objet. Il y a aussi ça, effectivement. Il y a beaucoup ça, d'ailleurs, chez Erdmann. J'en reviens toujours à Erdmann, mais... je pense que dans la société soviétique, il y avait cette impression des gens de ne plus être des humains, mais d'être simplement des objets ou des quantités négligeables. Effectivement.
Oui, mais c'est vrai, ça rejoint... Effectivement, je pense que Schwartz, en exploitant les archétypes, justement, montrait que c'était complètement rigide et qu'on avait du mal à échapper à ces carcans, hein, dont les personnages de contes sont vraiment des espèces de carcans. Et j'en profite pour effectivement de rebondir sur ce que vous disiez sur le plaisir qu'on doit avoir à travailler sur un conte quand on est un metteur en scène. Et c'est effectivement aussi, j'ai parlé tout à l'heure du conte comme tentative par Schwartz de réhabiliter une certaine morale universelle. Ça, c'était peut-être le but de Schwartz, et je pense que le but de Nicolas Akimov, qui a monté Schwartz, c'était justement d'échapper au réalisme psychologique, qui était de rigueur sur les scènes, et d'essayer une ouverture du côté de la fantaisie, du côté de la théâtralité. C'était pas facile, donc, dans l'Union soviétique des années 40 et 50. Ça l'était un tout petit peu plus dans les années 60, mais encore. Et Akimov a écrit plusieurs textes là-dessus en disant que, enfin, durant la période stalinienne, les personnages de sorcières étaient carrément interdits. Et on avait reproché d'ailleurs à Schwartz, qui avait écrit là pour le coup un conte d'enfant, donc en prenant vraiment la tradition du conte d'enfant, on avait reproché à je ne sais plus quel conte, lui avait reproché d'avoir osé montrer un personnage de magicien qui, disait le critique, enlevait leur jeunesse aux enfants. En réalité, en Union soviétique, c'était impensable. En réalité, c'était un conte complètement didactique où le magicien punissait les enfants paresseux en les transformant en vieillards. Et donc ça, c'était absolument impossible. Donc toute représentation du merveilleux était impossible entre la fin des années 30 et 1953. Après, bon, avec tout ce que j'ai essayé de vous dire au début, avec les difficultés encore liées au réalisme socialiste, on a essayé de réhabiliter la théâtralité. Et pour cette raison, justement, les contes de Schwartz ont été particulièrement joués, parce que c'était des matériaux idéaux pour pouvoir, pour les comédiens, pour les metteurs en scène, pour essayer d'échapper à ce carcan du réalisme psychologique. Donc on a joué le dragon, on a joué le roi nu aussi, qui a été un des grands spectacles du dégel à Moscou. Et pour ce qui est du roi nu, ça a été véritablement un exercice pour les comédiens du théâtre Savremenik, puisqu'ils avaient été jusque-là plus ou moins dans la mouvance du psychologisme stanislavskien, et avec Schwartz et d'autres contes, d'ailleurs, ils en ont monté deux, ça montre bien que c'était un type d'exercice. Ils ont essayé de se libérer justement des personnages psychologisants et d'essayer d'échapper à ces mises en scène naturalistes, en fait, qui avaient sévi pendant des années. Et quant à Akimov, il était très ami avec Schwartz. Akimov était non seulement un metteur en scène, mais c'était aussi un caricaturiste. Et il faisait très souvent la mise en scène et les décors, et les costumes aussi. Donc Schwartz était pour lui un auteur idéal, parce que voilà, ça lui faisait des ouvertures extraordinaires.
Alors, je ne sais pas si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. En tout cas, n'hésitez pas, on vous passera le micro puisqu'on enregistre cette manifestation. Monsieur, attends, est-ce que je peux vous passer le micro? Parce qu'en fait, ça permet aux personnes qui réécoutent.
Exceptionnel d'une part par la quantité d'écrivains de talent qui collaboraient, mais ce n'était pas une maison d'édition à la française où on envoie son manuscrit, on l'attend.
Qu'il y avait vraiment une forme de, disons, de socialité entre ces écrivains. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient le soir, ils dînaient ensemble, ils plaisantaient, ils écrivaient des épigrammes les uns sur les autres, etc. Mais ce que je ne sais pas du tout, c'est est-ce qu'il y a un pan de l'œuvre de Schwartz, justement, qui ressortirait à cette littérature pour la jeunesse? Je voudrais qu'on précise un petit peu le parcours. Qu'est-ce qu'il a fait quand, je veux dire, par là? Parce que est-ce que donc il a été amené à renoncer absolument au théâtre et donc il a trouvé, je dirais, non pas un dérivatif, mais enfin un autre domaine où il pouvait exercer son talent, par exemple dans la littérature pour l'enfance? Est-ce qu'il a mené les choses de front? Je crois que c'est important d'éclairer ces choses-là et de les périodiser. Tout ce qui touche à l'Union soviétique, il faut toujours périodiser.
Ah oui, allez-y. J'aurais peur de dire des bêtises.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut toujours contextualiser parce que d'une année à l'autre, les choses peuvent changer. Hein. 1933, ce n'est pas 1936, etc. Alors, bon, moi, je ne connais pas absolument bien le parcours de Schwartz. Ce que je sais, c'est que Schwartz a toujours mené de front les activités journalistiques, les activités d'écriture et essentiellement de contes. Voilà. Et il est vrai qu'il a complètement cessé à partir de l'interdiction du dragon en 1944, il a complètement cessé d'écrire du théâtre pour adultes, ça c'est sûr et certain, et il a recommencé seulement à la mort de Staline, donc plus du tout de théâtre pour adultes, mais il a continué à écrire des contes K1KA, parce que pendant la guerre il les a écrits pour ses tiroirs parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition. Au lendemain de la guerre, il y a eu quand même un certain nombre de campagnes, vous le savez, très virulentes, redressant la ligne notamment du réalisme socialiste. Donc même le conte, je l'ai dit, même les contes pour enfants étaient dans la cible, donc il s'est fait redresser deux ou trois fois même pour les contes pour enfants. Donc là il écrivait juste dans les journaux, voilà. Donc, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, hein, certains s'étaient lancés dans la traduction. Hein, lui, il ne l'a pas fait. Lui, il a écrit des articles de presse, un peu sur tout. Et puis, il a renoncé donc à ce genre qui était très dangereux, qui était la dramaturgie, puisque, comme je l'ai dit, quand on est dramaturge, on est censuré plusieurs fois, hein, on est plus censuré encore qu'un auteur. Voilà. Donc, il a écrit pour ses tiroirs. Et puis, quand Staline est mort, il a ressorti de ses tiroirs un certain nombre de textes, notamment ses pièces, qui ont pu donc, à ce moment-là, voir le jour.
Mais il en a écrit, je ne sais pas s'il les a ressortis ou s'il en a écrit deux sur la fin de sa vie.
Il y a
un miracle ordinaire.
Oui, la nouvelle sur les jeunes mariés, ouais. Et puis peut-être le trésor. Enfin, je crois qu'il en a écrit trois, mais il n'a pas eu le temps de les voir toutes représentées, ouais. Puisqu'il est mort en 58. Et par exemple, le dragon a été créé par Akimov, malheureusement, en 62, donc après sa mort. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un destin triste. Il a survécu, certes, mais il le dit dans son journal. Il est sorti brisé de cette période-là. Il a une métaphore, d'ailleurs, assez intéressante. Il utilise la comparaison avec le clapet. Vous savez, c'est cette petite cloison qui sont dans les instruments de musique et qui permettent de laisser passer l'air et de laisser passer le son. Et il dit qu'en fait, à force de se mettre des clapets dans la tête, il s'est fermé les yeux et les oreilles. Et donc, il s'en veut aussi, d'une certaine façon, de s'être tu, de n'avoir rien vu pendant une période où, effectivement, la moindre remarque, comme vous l'avez dit, la moindre délation pouvait vous envoyer en camp. Voilà. Donc, il a survécu. En s'en voulant beaucoup. Mais voilà, il a traversé quand même la période stalinienne.
Merci. Je voudrais juste faire une remarque, en fait, c'est signaler que cette année est sortie une autre traduction du Dragon qui est passée complètement inaperçue parce qu'en fait, c'est sorti dans une édition pour les lycéens, donc c'est quelque chose de très pédagogique, mais en revanche, la traduction est inédite, et c'est Anna Akimova ou Rybkina Louyest, je ne sais pas sous lequel de ces nombreux noms de famille elle a signé cette traduction.
Je ne l'ai
pas lu, je l'ai à la maison, mais je ne l'ai pas lu encore, je n'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment tout à fait récent, et je voulais vous la signaler. C'est d'autant plus qu'elle a été faite par quelqu'un qui est parfaitement bilingue, russe-français. Ça pourrait être intéressant aussi peut-être pour vous de jeter un coup d'œil dessus.
Avec plaisir.
Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas... Enfin, en tout cas, on peut aussi revenir sur le fait que c'est une pièce... qui est très fantaisiste. C'est pour ça que c'est assez tragique quand vous évoquez les dernières années de la vie d'Evgeny Schwartz, puisque finalement, il y a quand même beaucoup de joie, de fantaisie, enfin, aussi dans cette pièce. Il y a une dimension complètement folle, enfin, à travers le personnage du bourgmestre, notamment, qui est très hilarant la mise en scène que vous en avez faite.
C'est la grande force des écrivains russes, c'est de réussir à toujours, non pas cacher, mais en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, ils arrivent toujours à cacher le drame le plus épouvantable derrière la comédie la plus débridée. Ça, je trouve ça assez formidable chez les auteurs russes. C'est-à-dire qu'ils parlent des choses les plus terrifiantes, et d'autant plus terrifiantes qu'ils les vivaient. C'est ça, surtout. C'est que, il parlait de Schwartz, il parle de la vie, de ce qu'il connaissait, de ce qu'il vivait, de la censure, de l'oppression, de l'impression d'être constamment surveillé, d'être à la merci d'un tyran plus ou moins caractériel. Et en même temps, tout ça est toujours fait avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup de fantaisie, avec de la folie. Mais il y a souvent des personnages fous dans le théâtre russe. Là, en l'occurrence, effectivement, bon, ils le sont tous un petit peu, mais c'est précisé au début de la pièce que le dragon a fait, dans ce village, souffler un gaz toxique qui a rendu fou la moitié des habitants. Et c'est vrai qu'on se dit, effectivement, ce qu'il a dû se passer. Et il y a en particulier, effectivement, ce bourgmestre qui est un représentant de la bureaucratie et de l'establishment, voilà, puisqu'il est maire, enfin bourgmestre de ce village, et qui en même temps ne veut surtout avoir aucune responsabilité, ne veut rien faire. Il veut profiter de son statut de notable, mais surtout ne pas avoir de responsabilité, ne pas prendre de risques politiques ou autres, et qui du coup, à la moindre contrariété, fait des crises d'hystérie ou de schizophrénie ou autre. Alors, feinte ou pas feinte, on ne sait pas. Est-ce qu'il ne se sert pas de ça aussi pour ne pas avoir à prendre de décisions? Mais du coup, ça en fait un personnage totalement inattendu et insaisissable, parce que à la moindre contrariété, il se transforme en théière ou autre.
C'est vraiment très, très drôle. Et derrière...
Et en même temps, non, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, ça recouvre une réalité... assez tragique et assez inquiétante, parce que c'est une renonciation politique, ce bourgmestre, en réalité aussi. C'est l'absence totale de prise de risque, c'est la soumission totale aux supérieurs hiérarchiques, et enfin voilà. Et puis son avenir dans la pièce, là pour le coup, effectivement, je pense que Staline a dû se sentir concerné un petit peu par le personnage du bourgmestre.
Et il y a une autre analyse aussi qui est faite, parallèlement à la folie, enfin, ou en tout cas, il y a cette idée de la fascination pour le pouvoir qui est
présente dans la pièce. Ouais, c'est ce qui est... C'est un des points que soulève Simone Saint-Michel dans le livre. Pour l'utilisation du conte par Schwartz est intéressante parce que c'est le dragon est un personnage évidemment mythique, tout puissant avec des pouvoirs magiques. Et c'est aussi un moyen pour Schwartz de montrer à quel point, parfois, ou en tout cas sur certaines personnes, les tyrans, et même les plus sanguinaires, exercent une espèce de fascination, une espèce de quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnotisme, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que il y a vraiment une, ils arrivent à prendre aux yeux de certains une espèce d'aura, et on le voit encore dans les dictateurs qui se font dégommer les uns derrière les autres. Il y a toujours une partie, et même encore en Russie aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui reste fascinée par ces personnalités, toutes sanglantes qu'elles soient, toutes ouvertement folles qu'elles soient, parce que ces gens sont souvent des dingues, hein, faut le dire. Et en même temps, il y a toute une partie de la population qui reste fascinée par ces personnalités. Et l'utilisation du conte et de ce dragon, c'est aussi un moyen de montrer à quel point la population peut avoir une fascination un peu mystique pour des personnages qui sont en réalité d'épouvantables tyrans, quoi.
Oui, c'est sûr que dans la pièce de Schwartz, c'est clairement dit, le tyran est tyrannique. Mais si on fait ce qu'il faut, on sera protégé. Le tyran est à la fois un protecteur.
C'est la mafia.
C'est ça. Donc tu payes ton tribut et on te laisse tranquille. Voilà. Donc c'est effectivement c'est ce rapport de fascination-répulsion qui est très bien analysé en fait à travers des personnages archétypiques. Il y a aussi un auteur que j'ai vu à travers le dragon, c'est Gogol aussi. C'est-à-dire que, en fait, à travers cette fameuse tirade où je crois que c'est, je ne sais plus qui fait cette tirade, où on parle de ces âmes, défigurées,
c'est le dragon.
Dénaturées.
Hein, c'est le dragon lui-même.
C'est le dragon lui-même.
Qui parle des voilà. Habitants du village.
Et donc, il se moque de ces habitants dont il a détruit les âmes. Et du coup, c'est évidemment une référence à Gogol, aux âmes mortes. Mais le pire dans la Russie soviétique de Schwartz, c'est que ces gens dont on a enlevé les âmes, dont on a détruit les âmes, sont encore vivants. Alors que chez Gogol, lorsque Tchitchikov fait son négoce, il vend des âmes mortes, c'est-à-dire des gens qui sont des cerfs qui sont morts. Là, c'est pire, on est monté d'un cran, c'est-à-dire qu'on utilise ce gosse en fait, de ces gens qu'il a véritablement détruit, avec toute une il y a sur deux lignes, je crois, une série d'adjectifs qui est mis à côté du mot âme pour montrer à quel point il les a piétinés, il les a dénaturés, il les a détruits.
C'est un passage effectivement magnifique dans la pièce et qui se termine, parce que c'est une scène entre le dragon et Lancelot où le dragon essaye de dire à Lancelot que ça vaut vraiment pas la peine de sauver ces gens et de risquer sa vie pour eux parce que de toute façon ils en valent pas la peine. Il dit que ce sont des estropiés. Voilà, de toute façon. Et cette tirade dont vous parlez, qui effectivement est particulièrement belle, se finit avec le dragon qui dit à Lancelot: le corps, si tu le fends en deux, il meurt, mais l'âme, si tu la brises, elle devient plus docile et c'est tout. Et effectivement, c'est aussi une manière de voir l'oppression assez terrifiante. C'est-à-dire où effectivement les gens deviennent.
Ils sont réduits à des corps de tomates,
une
espèce de mannequins.
Et effectivement, dans la pièce, ce passage est très très beau.
Sans âme. Oui,
c'est effectivement ce que le Théâtre 13 a bien résumé en qualifiant la pièce de fable drôlement tragique. Qui rappelle bien ces deux aspects de l'écriture de Schwartz. Si vous avez encore peut-être une question, n'hésitez pas.
Oui, moi, c'est une question à poser au metteur en scène. Alors déjà, en tout cas, vous donnez vraiment envie de voir la pièce. Et je me demandais quelle est votre première motivation d'avoir voulu mettre en scène cette pièce. Est-ce que c'est une pièce plutôt qui vous interpelle, qui vous a intéressé depuis toujours et que vous aviez toujours envie de monter, ou est-ce que c'est plus que vous pensez qu'à travers cette pièce, il y a des messages particulièrement pertinents qui correspondent vraiment aussi à la société française d'aujourd'hui, par exemple la question de la recherche du pouvoir à tout prix? Moi, il me semble que c'est quelque chose d'actualité.
Il y a beaucoup de facteurs qui donnent envie de monter une pièce. D'abord, il y a le texte lui-même. Là, il s'avère que quand je travaillais sur le mandat et que j'ai découvert le dragon, je trouvais que c'était vraiment, vraiment une pièce extrêmement intéressante. Après, Ce qui est intéressant dans la pièce, pour moi, c'est qu'elle ne, elle ne donne pas de réponse. Elle ne, justement, la morale dont on parlait tout à l'heure. À la fin de la pièce, il y a ce qu'on pourrait appeler une morale. Mais il faut toujours être méfiant avec ça, parce que... voilà, moi, je ne suis pas là, en tant que metteur en scène ou même comme comédien, je ne suis pas là pour dire aux gens comment il faut qu'ils pensent. Ce que j'aime chez Schwartz, et c'est aussi ce que j'aimais chez Herdman, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux disent « pensez par vous-même ». Enfin, prenez vos responsabilités, voilà. Réapprenez à penser par vous-même, ne vous laissez pas enfermer dans un système, dans une manière de parler, justement, voilà, dans un discours préfabriqué. Pensez par vous-même, libérez-vous. Donc ça, c'est la première chose qui m'a intéressé dans cette pièce. Il s'avère qu'en plus, elle aborde effectivement, et encore plus aujourd'hui, des choses, des thèmes qui effectivement sont actuels. Il y a tout simplement ce grand thème du droit ou du devoir d'ingérence. Lancelot, c'est vraiment, enfin, je dis pas l'ONU, mais enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il s'est donné comme devoir partout où il passait d'apporter la démocratie aux gens, que les gens le veuillent ou non, et sa vision de la démocratie à lui. Alors après, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà. Et puis, il y a aussi quand même dans le déroulé de la pièce et dans la narration de la pièce, malheureusement, des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit en ce moment ou ce qu'on voit au Proche et au Moyen-Orient sur la chute d'une dictature, la fin d'une dictature, une révolution, quelle qu'elle soit, aidée par l'extérieur ou pas, comme dans la pièce, mais surtout, qu'est-ce qui se passe derrière ? Parce que Lancelot, dans la pièce, malheureusement, une fois qu'il a... entre guillemets, libérer les gens, il les laisse à leur triste sort. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui prend le pouvoir ? Comment on réagit une fois que la révolution est faite ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est libéré ? C'est tout ça dont parle la pièce. Et sans être militant de quoi que ce soit, je trouve que c'est intéressant de se poser la question au regard de ce qui se passe en ce moment dans le monde, après avoir vu ce qui s'est passé en Afghanistan et ce que c'est devenu, qu'est-ce qu'on va laisser faire, qu'est-ce qu'on va pas laisser faire. Enfin voilà, je trouve que voilà, c'est une bonne manière de réfléchir à aussi comment nous, j'allais dire citoyens ordinaires, on aborde la politique, jusqu'où on est prêt à aller. C'est une pièce qui pose la question de savoir tout simplement dans une situation de dictatoriale, à quel moment on collabore. Est-ce que déjà ne rien faire, c'est déjà collaborer? C'est déjà ça. À quel moment on commence à résister ? Est-ce que déjà dire non, simplement non, c'est déjà résister ? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Jusqu'où il faut aller ? Enfin voilà, la pièce aborde tous ces thèmes. Elle n'apporte pas de réponse. Elle lance des réflexions, je trouve. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Cumulé au fait qu'effectivement, c'est un conte et que donc on peut amener ça sous un univers très naïf, très simple, très derrière lequel se cache quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus amer. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de monter cette pièce. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais
Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Christine. Mathieu.
Non, moi, sur le final, effectivement, c'est un final qui est ouvert, tout en étant quand même un petit peu pessimiste, parce que le personnage dit, en fait, on a coupé les trois têtes du dragon, mais en fait, il va en repousser 100 000. Donc, voilà. Mais c'est un final ouvert, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. On ne sait pas si cet affreux Bourmès va prendre le pouvoir ou pas. Et donc, c'est un final non didactique, ouvert, et laissé à l'appréciation du spectateur et du metteur en scène. Au fond, c'est au metteur en scène de donner l'inflexion ou de laisser ouvert. Et ça, je trouve ça, pour un auteur dramatique, assez rare. Hein. Généralement, les auteurs dramatiques veulent un petit peu que l'on monte dans leur sens les textes. Et en ce qui concerne Schwartz, je pense qu'il laissait Akimov rêver et ouvrir les choses comme il l'entendait. Voilà. Mais oui, je pense que vous avez raison, c'est une pièce qui garde une actualité. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'elle a été très très jouée dans les années 60. Et puis elle est jouée un peu tout le temps. Hein, un peu tout le temps. Il y a des moments où elle est plus jouée que d'autres. Mais je trouve que cette actualité-là que vous avez définie, elle est vraiment très juste. Et que ça nous laisse réfléchir à partir de ces personnages assez simples. Ça nous laisse vraiment des pistes de réflexion sur nous-mêmes et sur les autres aussi.
Bah, merci beaucoup. Et si vous voulez retrouver en quelque sorte, prolonger l'expérience autour du dragon, il suffit de traverser la rue pour aller au Théâtre 13 jusqu'au 28 octobre. Merci beaucoup Stéphane Douret et Marie-Christine Autant-Mathieu. Vous pouvez retrouver sur le site toutes les informations qui ont été évoquées aujourd'hui, les références bibliographiques et aussi à la BULAC, la Bibliothèque des Langues et des Civilisations, une sélection d'ouvrages en russe de Schwartz, et notamment dans lesquels vous trouverez des illustrations un peu inédites par rapport à ce qu'on peut trouver en ligne dans nos fonds. Voilà, merci, bonne soirée.